Bonjour, ici Chantal Lavoie. Bienvenue à Aime l'été, notre dernière émission de la saison estivale. Une saison qui aura été riche de ses multiples rencontres, de tous ses sujets passionnants, des nombreuses activités dont on a parlé et de celles dont on n'a pas parlé aussi. Alors, j'ai aimé tous ces moments partagés avec cette merveilleuse équipe qui m'a entourée tout au long de l'été et qui sera aussi bien présente pour la prochaine saison. L'automne nous réserve des émissions fortes, intéressantes à l'antenne de Canal M. Et en ce vendredi 1er septembre, on va surtout réfléchir, discuter, échanger sur différents enjeux liés au vieillissement, à la sexualité et aux problèmes de mobilité et d'accessibilité pour les gens qui vivent avec un handicap. Pour la prochaine heure, suivez-nous à Aime l'été! Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Jacinthe Descoteaux, tétraplégique, qui est une citoyenne qui vit quotidiennement avec des enjeux de mobilité. Elle n'a pas la langue dans sa poche quand vient le temps de parler d'accessibilité dans les commerces et sur les trottoirs notamment. Et également, je reçois pour la dernière fois cet été notre chroniqueuse Josée Blondin, psychologue au service des aînés, qui va nous parler du vieillissement, mais nous allons surtout faire le point sur notre approche face aux différentes saisons de la vie et comment envisager la suite des choses lorsqu'on arrive à l'automne de notre vie. Mais d'abord, je commence l'émission avec notre recherchiste Catherine Bourderon, qui signe la recherche de cette présente émission, comme celles d'ailleurs qui vous ont été présentées tous les vendredis au cours de l'été. Et pour terminer cette saison, elle signe pour la première fois cet été une chronique. Elle aborde un gros sujet. Elle n'a pas froid aux yeux. Dans un instant, on jase ensemble de sexualité. Voici notre dernière émission de Aime l'été. Et on vous souhaite par ailleurs de bien profiter de cette longue fin de semaine de la fête du travail, point d'orgue des vacances, soubresaut avant le grand saut dans la rentrée officielle ou peut-être pour certains le moment de partir ailleurs après un été bien occupé. Encore une fois, merci à l'équipe de recherchistes Claire Guérin, Méliane Fafard, nos jeunes recherchistes stagiaires Aya Jennifer Rando et Anaïs Sabourin et bien entendu Catherine Bourderon qui aujourd'hui a décidé de prendre la parole et de parler de sexualité. Bonjour Catherine!
Bonjour Chantal, je suis très heureuse d'être à côté de toi et pas du côté de la vitre, mais dans le studio.
Ben oui, ça change. Hein? Ben c'est d'abord, en fait, on pourrait dire que c'est une chronique littéraire hein, que l'on va faire ensemble puisqu'on va parler de ce fameux livre de la journaliste Sylvia Galipeau, « Derrière la porte, 50 récits intimes, sexuels et pluriels ».
C'est ça. Alors aujourd'hui à l'émission, pourquoi ne pas parler de sexualité? C'est un sujet encore très tabou en 2023, je dirais, mais ô combien estival. Alors, c'est ça, c'est derrière la porte, ces chroniques existent depuis 8 ans. Et l'autrice a choisi 50 confidences où elle raconte les petites et les grandes histoires et les rapports intimes de gens ordinaires. Elle s'est promenée un peu partout dans le Québec et les gens lui ont livré des témoignages sur leur vie sexuelle. Et c'est très, très, très intéressant.
Oui, c'est ça. Et les gens, finalement, l'ont beaucoup alimenté au fil des ans aussi. Hein. En fait, on cherchait à la joindre pour justement témoigner. Il y a eu vraiment un très
un
bel
engouement. Oui, et d'ailleurs, au départ, l'idée de... ils voulaient faire quelque chose sur la sexualité. Ils ont dit, bon, on va faire un sondage, puis on va voir ce que nos lecteurs québécois vont nous dire. Alors, elle ne voulait pas savoir, en fait, qu'en moyenne, parce que c'est ça les statistiques, hein, en moyenne, on fait 2 fois l'amour par semaine dans la position du missionnaire.
Alors ça, c'était les statistiques.
Elle a décidé
mais c'était pas très intéressant, là. Mais, ça manquait
on rentrera pas dans les détails. Mais elle a décidé donc d'initier autre chose et elle s'est inspirée du Nouvel Obs. Du Nouvel Observateur. Et il y avait une série lancée par Rue 89 qui s'intitulait « Vie de baise ».
Ah oui, ben ça, c'est alors, vraiment donc, elle une expression calqué... bien française.
Oui, alors elle a calqué donc ses chroniques sur le Nouvel Obs. Et donc... il y a différents thèmes donc
ouais,
dans son livre.
Il fallait quand même qu'elle cherche toutes ces sur 8 ans là, 50 récits quand même fallait bien les identifier hein, ces récits
ouais.
qu'elle allait mettre dans son
c'est
livre.
C'est ça. Mais c'est intéressant parce que dans le livre il y a les couples heureux au lit, les relations à géométrie variable. Le travail du sexe, le célibat, la séduction, l'orientation sexuelle, la quête de l'orgasme et des abus. Alors, moi, j'ai lu le livre, évidemment, 5 ans. Ça m'a pris tout l'été. Je suis très contente.
Oui, bien, c'est ça. On s'en est parlé au début de l'été. Puis tu as dit, bon, pour ta dernière journée, je vais parler de ce livre.
C'est ça. C'est une lecture très intéressante, je dirais, même pas seulement pour l'été. Alors, il y a plusieurs cas de figure ont retenu mon attention. La polyamoureuse dans le placard, Philippe qui veut une blonde et le choc de Viviane. Je vais commencer par Philippe qui veut une blonde. Alors, ouais. Philippe, il a 49 ans. Il est célibataire. Ça fait 5 ans. Il a un parcours classique. Il est resté 10 ans avec la mère de ses enfants et il a toujours eu des relations stédées. Mais depuis quelques temps, il fréquente plus trop. Il s'est mis sur les réseaux sociaux et là, il trouve que c'est le Far West. Ah, oh surprise, c'est le Far West, aller sur les réseaux sociaux. Et il dit, ce n'est pas dit nécessairement, mais sur ces sites, il y a cette illusion qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur disponible. Alors, il dit, on parle de MeToo, du LGBTQ, c'est correct, mais il y a un combat à livrer. Moi, j'ai mon combat, je veux juste une blonde.
Et ça, c'est ça, tout le monde a son combat personnel, mais lui, en fait, tout ce qu'il voulait dire, c'est que moi, c'est simple, mon combat, il n'y en a pas de combat, je veux juste une blonde.
Il veut juste une blonde et ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'on parle ici de solitude. Chantal, est-ce que tu savais que depuis 2018, le Royaume-Uni a son ministère de la solitude?
Ah, ben ça, c'est intéressant. Oui, Dieu. Je ne savais pas du tout.
Les gens sont seuls. Et tu vois, au Québec, 15% des Québécois vivaient seuls en 2001. Et en 2021... C'est 19%.
Ah oui, c'est en augmentation, en effet. Et puis bon, ben, c'est sûr que la population vieillit en plus. Alors, c'est sûr que là, on est appelé parfois à vieillir seul.
Mais c'est une personne sur cinq.
C'est pas rien.
C'est une personne sur cinq. Ouais. Et pourquoi le Royaume-Uni a décidé de faire un ministère de la solitude? Ça touche presque... Ben, ça touche 9 millions de Britanniques. Et c'est carrément lié aussi à la santé globale. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été menée par le National Institute of Aging des États-Unis et on affirme que être seul équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Notre santé cardiovasculaire, notre système immunitaire, nos risques de développer l'Alzheimer et notre espérance de vie sont influencés par la solitude.
C'est ça. Ben, donc, c'est vrai que oui. On disait que l'espérance de vie était supérieure quand les gens étaient en couple. Ça, je me souviens d'avoir déjà entendu ça. Mais c'est pas rien quand même. Donc, c'est presque un enjeu de santé publique.
Mais c'est ça. On dit, c'est ça. Bon, il y a un deuxième cas aussi qui m'a interpellée. En fait, je me dis, est-ce que c'est plus compliqué de tomber en amour en 2023 qu'il y a 20 ans? On en reparlera plus tard, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Il y a aussi l'histoire de Viviane, 42 ans. Elle est restée 15 ans avec un homme. Puis, scénario classique, monsieur a oublié de fermer son ordinateur. Et qu'est-ce qu'elle voit quand l'ordinateur est ouvert? Il était accro à la porno.
Ah, ben oui, c'est ça. Scénario peut-être, oui, classique, façon de parler. Là.
Il s'est payé 200 prostituées.
Ah.
Et là, non, c'est pas drôle, excuse-moi. C'est pas drôle. 200, c'est parce que c'est le choc, c'est nerveux.
Non,
c'est le choc de cette révélation.
Mais ce sont des histoires très personnelles, très intimes. Là, les gens, c'est des gens ordinaires. Et puis, effectivement, c'est très sérieux. Là,
200 prostituées, elle se demandait toujours pourquoi il n'y avait pas d'argent. Et donc là, évidemment, elle ne lui a jamais pardonné. Et je me suis demandé, c'est quoi la trahison? Mais c'est de la trahison, mais c'est horrible. Donc, dans ce livre-là, il y a de tout. Il y a de la trahison, il y a de la fidélité, il y a des gens qui sont asexuels. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens se trompent? C'est ça.
Oui, parce que puis il y a des gens qui, même qui ont des histoires un petit peu hors normes, comme cette polyamoureuse, Carole.
Carole est une polyamoureuse, oui. Alors, Carole, elle est lesbienne. Elle aime charmer, elle a une blonde, elle a rencontré une autre femme pendant ce temps-là. Et elle avoue que les deux veulent mon bonheur. Elle m'aime beaucoup Elle l'aime beaucoup, même à un moment donné, parce que là, c'est vraiment intime ce qu'on entend, ce qu'on peut lire dans ce livre-là. Même les deux blondes de Carole ont déjà eu des rapports sexuels une fois à trois. Mais non, c'est vraiment très compartimenté. Donc, il y a Carole et les deux blondes. Et le gros, ce qu'elle aimerait beaucoup Carole, c'est que se marier avec ses deux blondes.
Ah oui, qu'on lui permette de le faire.
Ouais. Bon. Et donc je me demande, est-ce que notre société est assez ouverte pour accepter ces nouveaux patterns?
Ben là, et la question, c'est ça. Parce que là, elle rêve aussi d'acheter un duplex à trois, puis de faire vraiment un ménage à trois. Bon, est-ce que, évidemment, là, on a parlé du mariage gay, on a parlé de toutes sortes de choses, mais là, évidemment, là, c'est autre. Ouais, c'est ça. Là, on est à trois partenaires, finalement.
Trois partenaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dans ce livre, c'est voir tous les patterns amoureux, tout. Ben, en fait, tu sais. Parler de sexualité, c'est parler de la vie. Il y a autant d'histoires sexuelles que d'individus sur Terre. Mm-hmm. Et après avoir lu donc ces 50 récits...
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Est-ce que ça nous montre... Est-ce qu'on est à même de se comparer un peu à travers ces histoires-là? Est-ce que ça nous réconforte parce qu'on se retrouve parfois dans certaines histoires? Est-ce que...
Ça nous réconforte. Moi, je me rends compte qu'on ne parle pas assez de sexualité. Quand j'ai préparé cette chronique, là, oui, d'ailleurs, Sylvia Galipo, je lui lève mon chapeau, elle posait carrément aux intervenants, est-ce que vous vous masturbez? Donc, vraiment, je veux dire, faut vraiment...
Elle allait dans le, très allait intime, dans le détail. Et les gens, livraient carrément.
Les gens se livraient.
Et avec une certaine facilité aussi.
Facilité, mais moi-même, je me suis promenée avec le livre sur une terrasse, parce que je suis partie du bureau et je me suis promenée avec le livre sur une terrasse. Et il y a des inconnus qui m'ont parlé du livre, qui m'ont dit « qu'est-ce que vous lisez ?» et qui m'ont raconté mais leur vie sexuelle pointue de chez pointue. Donc, je me suis rendu compte qu'on est quand même dans une société muselée et que c'est très tabou de parler de notre vie sexuelle, alors que dans les médias, on ne parle que de ça. On parle de toujours dans les magazines. Ouais. On parle toujours
mais
comment faire l'amour, réinventer l'amour, réinventer
ouais,
la sexualité.
On en parle souvent de la même façon.
De la même façon, mais les individus entre eux parlent rarement de sexualité. C'est clair qu'on peut pas parler de notre vie sexuelle dans un bureau. Et même ce que je me suis rendu compte, entre eux, ils se parlent pas, les gens, de leur vie sexuelle. Il y a beaucoup dans ces histoires-là. Je me suis dit, s'ils avaient été capables de communiquer davantage ces couples-là, sur leur vie sexuelle, il n'y aurait pas eu autant de drames.
Ouais. C'est parce que... Tu penses qu'on n'en parle pas suffisamment entre nous, dans
non.
les couples?
On n'en parle jamais. Et on devrait même, dans les écoles, parler de sexualité.
Il y a une pression. C'est sûr que dans les écoles, bon, ça, c'est sûr qu'on le sait qu'on a... un manque à ce niveau-là présentement. Là, c'est sûr, l'éducation sexuelle, là, on repassera. Là, c'est pas encore... ben oui, on en parlait un petit peu autrefois, mais enfin, ça s'est un peu perdu, j'imagine. C'est-à-dire que l'autre affaire, c'est que moi, je pense que dans les écoles aussi, ben, peut-être apprendre à devenir de meilleurs êtres humains, c'est très, très important. Parce qu'est-ce qu'on n'est pas à l'image, finalement, de notre sexualité? Notre sexualité est à l'image de ce que nous sommes, c'est ce que je veux dire.
Oui, de ce que nous sommes, est-ce que... Et aussi... des dictats de la société, c'est que...
Oui, c'est ça, exactement. On a des injonctions, on a des... on entend toujours parler, effectivement, dans les médias, dans les rencontres, que ce soit, bon, à la radio, on parle... Bien sûr, les sexologues qui nous disent, bon... Ils nous disent, finalement, un petit peu comme une recette, là, pour bien pimenter notre vie sexuelle. Mais enfin, je veux dire, il faut penser qu'il y a des gens qui n'en ont même pas de vie sexuelle et qui, parfois, aimeraient en avoir, mais n'en ont pas, et d'autres qui n'en veulent pas aussi. Alors, tu sais, il y a toutes sortes, aujourd'hui, d'enjeux par rapport à la sexualité, puis il y a toutes sortes de modèles maintenant aussi.
Oui, c'est drôle, Chantal, parce que justement, dans le livre, il y a Charlie, 23 ans, elle est asexuelle. Alors, Charlie aime la tendresse, mais pas le sexe. Elle aime Frenchie, mais pas baiser. Elle aime les filles et les garçons, mais il est hors de question pour elle d'être en relation. Charlie est anarchiste relationnel. Et
ah,
surtout
bon.
Asexuel.
Oui.
Et d'ailleurs, elle a fait cette confidence à la journaliste Sylvia Galipo. Je rappelle, on parle ici du livre « Derrière la porte, 50 récits intimes » aux éditions La Presse.
Donc, un condensé de 8 années de chroniques qu'elle a fait dans La Presse.
Oui. Et donc, c'est
ça. Il y
en
a encore, d'ailleurs.
Elle était très contente. Elle était très contente de parler à la journaliste pour dire « Je suis atypique. Je suis asexuelle. » Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. C'est qu'on voit des témoignages humains, vibrants, chaleureux, sans filtre. Et on devrait, en fait, c'est ça, en lisant ça, j'ai dit, mais comment? Mais c'est fou, dès qu'on ouvre la porte, c'est pas derrière la porte, c'est ouvrir la porte. On préfère oui. un autre livre, ouvrir la porte, s'il vous plaît.
Oui.
On dirait que les gens ont tellement besoin de parler
c'est
de leur
vie sexuelle.
C'est comme
si, derrière la porte, là, c'est comme si on était un petit peu voyeur. Mais quand je voyais les chroniques, mais en fait, c'est que, oui, c'est ça, faut ouvrir la porte, comme tu dis.
Faut ouvrir la porte sur la discussion et en parler, par exemple, à l'aube de la soixantaine, on dirait qu'à l'aube de la soixantaine, on pense que les gens ont plus besoin de tendresse et moins de vie sexuelle. Il y a aussi les rapports sexuels quand on est dans la vingtaine, la soixantaine, avec qui il y a beaucoup maintenant des jeunes avec des plus vieux. Il y a plein de modèles sexuels qui sont encore tabous et les gens souffrent parce qu'ils ne sont pas capables de se libérer, de lier la langue. Il y a ce livre-là. Je veux dire, il n'y a pas tellement d'émissions de sexualité au Québec, là. Je pense que j'en ai vu une ou deux, mais avant, il y avait Sexe et Confidence avec Louise-André Saunier qui est décédée il n'y a pas si longtemps. On parle peu de sexualité, que ce soit à la radio, à la télé, dans les. Je veux dire, la presse le fait avec cette chronique derrière la porte, mais je pense que c'est un véritable enjeu de société. On pourrait en parler davantage.
Bien sûr que oui, puis bon, on parle que ce soit l'hétérosexualité, enfin, ou l'hétéronormativité, l'homosexualité, la bisexualité, enfin, quelle que soit notre identité de genre, c'est sûr que ça fait partie des besoins fondamentaux, mais comme je le dis, bon, il y a toutes sortes de façons de vivre ça, et puis, c'est ça, c'est là que peut-être qu'on parlait toujours trop d'une certaine façon de faire, et puis comme si c'était aussi obligatoire d'avoir une vie sexuelle épanouie, alors que, bon, ça peut être, effectivement, il y a des gens qui sont qui n'en veulent pas de sexualité dans leur vie, ou enfin, tu sais, il y a toutes sortes de choses, finalement, à considérer là-dedans. Et puis, bon, ben, il y a tout l'enjeu de la dimension santé mentale là-dedans, enfin, il y a plein d'enjeux de société, puis d'enjeux de santé publique.
Mais il y a des gens qui n'ont pas de vie sexuelle parce qu'ils ont des problèmes physiques ou mentaux, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est hors de leur contrôle. Mm-hmm. Je veux dire, il faut être en santé quand même pour avoir des rapports sexuels.
Ben oui, puis c'est ça, il y a plein de considérations à y avoir. En tout cas, chose certaine, ben ça peut être une piste intéressante, là, d'aller explorer, voir ce que les gens vivent dans leur intimité. Et puis, c'est sûr que, bon, puis toutes sortes de manières de vivre. Et si ça peut nous apporter, finalement, si ça peut nous aider à se questionner nous-mêmes par rapport à ce que nous sommes, ce que l'on veut vraiment, ben c'est ça, parce que ce que nous sommes, ben je veux dire, c'est déterminant par rapport à notre propre sexualité. Oui. Et puis aussi, ben, je veux dire, il y a toute la dimension, le couple, tu sais, encore dans la société, il y a toujours cette espèce de, tu sais, juste l'importance qu'on accorde au couple aujourd'hui, hein, c'est quand même phénoménal. Alors que dans le fond, bien des gens vivent seuls.
Ben oui.
Alors, mais tu sais, c'est comme si la norme, c'était de vivre en couple.
C'est 19% des Canadiens.
Si t'es pas en couple, c'est comme si c'était...
19% des Canadiens vivent seuls, 12% en Ontario et 8% en Nunavut.
Bon.
Donc, on est, en fait, les Canadiens sont...
Ouais. Ben non, alors, ça influe sur, bien sûr, notre vie sexuelle. Et puis, bon, ben, en tout cas, il y a toute une réflexion à y avoir.
19% au Québec,
et beaucoup d'acceptation, beaucoup d'ouverture que ça prend,
mais
beaucoup de maturité émotionnelle
absolument.
Dans nos relations amoureuses. C'est fou comment on n'a pas cette maturité toujours. Hein,
oui.
Déterminant.
Tu vois, lorsque j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je vais faire avec cet héritage? Parce que c'est un héritage de lire quelque chose comme ça. Je me suis dit, les gens ne parlent pas assez de leur sexualité et tous ces témoignages, j'ai senti qu'à chaque fois que quelqu'un se livrait à la journaliste Sylvia Galipo, il se sentait libéré d'un fardeau. Alors, c'est juste un témoignage, on parle de témoignage dans un livre, mais juste dans la société, chaque jour, les gens ont besoin de parler de leur vie sexuelle, voir est-ce que je suis normale, j'avance en âge,
ouais,
j'ai
ça.
Vécu ci, j'étais mariée, je suis plus mariée, je suis veuve, je suis homosexuelle désormais, je l'étais pas avant. Il y a plein de gens, leur vie sexuelle se transforme.
Exactement, c'est toujours en évolution, comme,
ouais.
comme l'être humain, de toute façon. Enfin, derrière la porte, 50 récits intimes, sexuels et pluriels, Sylvia Galipo, paru aux éditions La Presse. Ben, c'est ça, c'est une parution qui est toute récente. Alors, merci, Catherine, d'être venue nous parler de ça.
Merci.
Alors, c'était audacieux.
Merci.
Voilà. Merci. Et puis, on continue avec notre émission. On reçoit notre chroniqueuse aînée dans un instant.
Merci. Bye.
soir je fais l'amour avec toi. Prends-toi un scotch, déshabille-toi. On n'ira pas au cinéma. Ce soir je fais l'amour avec toi. Je fais l'amour avec toi. J'ai mis plusieurs disques d'affilée. Tu n'auras pas besoin de te lever. Ce soir, je fais l'amour avec toi. Ce soir, je fais l'amour avec toi.
René Claude, ce soir, je fais l'amour avec toi.
Et c'était pour Catherine, bien sûr, qui nous parlait de sexualité tout à l'heure. Et oui, je parle avec José Blondin, psychologue au service des aînés. Et oui, René Claude, qui avait un plan très défini hein, pour la soirée. Et bien, tu sais, bon, je pense que même quand on vieillit, c'est ça, il faut aussi avoir des objectifs, se donner des objectifs. Et on en a parlé pendant pas mal toute la saison, José.
Exactement. Et c'est important d'avoir ces objectifs-là parce que ça nous garde jeunes.
Eh oui, c'est ça. Et puis, bon, vieillir. Et là, bon, d'abord, bonjour, José. Et puis, contente de t'accueillir pour cette dernière chronique de la saison. Là. Hein, ça m'attriste beaucoup là, que ça se termine. Mais bon, on va tâcher que ça se poursuive autrement. Et puis, c'est ça, vieillir est en quelque sorte... en fait, il faut traverser plusieurs saisons. En fait. C'est une façon de... Bon, là, avec l'automne qui s'en vient, on peut parler de notre... pour les aînés, on amorce peut-être la saison, notre saison de l'automne. Oui.
Tout à fait. Puis la saison de l'automne, là, c'est se demander, là, Chantal, votre prochaine saison qui est l'automne, là, c'est quoi vous voulez faire pour vivre pleinement? Donc, oui, arrive l'automne, puis qu'est-ce qu'on fait à l'automne? Bien, on apporte des changements. C'est par exemple, on va changer notre garde-robe pour se préparer à l'hiver. On va peut-être faire du ménage, on va ranger nos choses aussi en vue de l'hiver finalement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que chaque saison, c'est une transition. Mais tu sais, Chantal, vieillir, c'est aussi des transitions que nous traversons.
C'est ça. Tout au long de notre vie, ça se fait tranquillement. Alors, c'est ça. Il faut savoir s'adapter à ces transitions. Alors, oui. Et puis, quand on arrive à l'automne de notre vie, il faut réfléchir aussi vraiment à ce qu'on veut.
Et là, c'est le temps du ménage, finalement, pour justement avoir ces réflexions-là. Donc, de voir, finalement, comment j'ai le goût d'avancer afin de vivre des expériences, parce que, tu sais, toutes les transitions qu'on vit ce sont justement, on va vivre des expériences dans ces transitions-là. Puis tu sais, c'est ça la vie, Chantal, c'est la vie nous apporte des expériences.
C'est ça, puis on dit toujours que finalement, c'est pas la finalité en soi, c'est toujours le chemin qui peut nous rendre plus heureux, plus lumineux, vraiment, et savoir apprendre aussi, apprendre sur nous-mêmes et savoir ce qui nous convient dans la vie.
Exactement, dans le fond, tu vois, c'est à travers ces expériences-là. Il y a peut-être des expériences qu'on va dire « Ah, ça, j'ai peut-être moins aimé, mais on va avoir appris quelque chose. »
Eh, voilà, oui, c'est vrai. Alors, puis aussi, ne pas oublier que le temps file et ne se rattrape pas, hein?
Le temps est ce qu'on a de plus précieux, Chantal. Puis tu sais, j'ai le goût de dire aux gens que si vous reportez constamment les expériences que vous pourriez vivre, mais c'est plate, mais il risque de vous manquer du temps.
C'est vrai, c'est vrai.
Hein? Il y a eu des données qui ont été dévoilées par Statistique Canada lundi passé. Bien, lundi de cette semaine, donc tu sais, c'est tout chaud,
Chantal.
Ah, c'est
tout chaud, tout récent, oui.
L'espérance de vie au Québec, tant pour les hommes que pour les femmes, a augmenté de quelques mois entre 2019 et 2021.
Okay.
Donc, elle est toujours basse au niveau canadien, mais au Québec, l'espérance de vie est autour de 83 ans.
OK. Alors, quand même, 83 ans, quand on entame la soixantaine, ça peut aussi... il faut s'y mettre, là. Il faut quand même pas tarder à réaliser ce qu'on veut faire, parce qu'effectivement, ça passe vite, 20 ans.
Exactement, parce que c'est ça, Chantal, le danger. Quand on a 60, par exemple, on se dit, j'ai encore du temps. Mais tu l'as très bien dit tantôt, le temps file et ne se rattrape pas. Et ça va permettre, justement, si je mets ce temps-là à ma contribution... Mais justement, c'est que je vais pouvoir vivre de nouvelles choses, me découvrir comme personne aussi et ajuster, par exemple, mes expériences aussi. Donc, je peux, mettons, dire, ben j'ai le goût, je vais m'inscrire à tel cours et là, réaliser, ah ben c'est-tu quoi, j'aime pas ça. Ben j'ai encore du temps pour pouvoir ajuster mes rêves, mes projets, ainsi de suite.
Oui, ah, c'est vraiment les gens, vous savez, qui... tu sais, José, les gens qui, pensaient toujours qu'ils allaient faire des choses à la retraite et puis attendaient la retraite tout le temps, pour voyager, pour faire quoi que ce soit. Ben, finalement, ils se sont parfois retrouvés à la retraite et puis, avec une maladie et puis n'ont pas pu concrétiser leurs rêves. Alors, vraiment, il faut toujours faire un bel équilibre quand même là-dedans, là, pas remettre toujours à plus tard. C'est vraiment très important. On va s'arrêter le temps d'une pause, José, et puis on va continuer sur ce beau sujet. Alors, je pense qu'on a beaucoup à dire là-dessus. Alors, à tout de suite, José.
Vous écoutez Aime l'été.
Et de retour avec José Blondin, psychologue au service des aînés. On parlait bien sûr de bien vieillir, mais aussi de trouver un juste équilibre, ne pas remettre toujours à plus tard, parce qu'évidemment, le temps passe et on va finir par manquer de temps, comme tu le disais si bien, José. Tu parles également de ne pas ressentir nécessairement de la culpabilité, alors qu'on doit être à un âge où on... Il faut se prioriser aussi à certains égards. Là. C'est pas, on a beaucoup peut-être donné avec nos enfants notamment, mais ça ne veut pas dire ne cesser de le faire, mais ça veut dire aussi penser à nous.
Bien, tout à fait, en fait. Et je pense que là, cette culpabilité-là, c'est oui, on peut penser à nos enfants, à nos petits-enfants, à ce qu'on veut leur laisser, mais là, il y a comme un inéquilibre quand même, Chantal, et ça, c'est important à y avoir. Entre ce qu'on veut laisser à nos proches et nous permettre de profiter du temps qui va vous rester pour penser à vous. Et ça, ce n'est pas d'être égoïste. Au contraire, c'est justement, et c'est important, parce que si vous, vous le faites pas, qui va le faire? Finalement, il n'y a personne qui va le faire à votre place.
Exactement, c'est ça. Et pour le faire, il faut vaincre un petit peu nos peurs, parce que vieillir, ça veut dire aussi peut-être les peurs en vieillissant, ça peut mettre un frein, bien sûr, à nos élans.
Et on en a plus de peur en vieillissant, c'est tout à fait normal. Tu sais, si on revient avec ce qu'on avait parlé au début des chroniques, on parlait de la pyramide de Maslow et le besoin de sécurité, mm-hmm. qui est un volet, le besoin de sécurité financier et social. Donc, nos insécurités vont augmenter en vieillissant. Nos insécurités reflètent, tu l'as bien dit, Chantal, des peurs. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que ces peurs-là, ils vous ont peut-être bien servi au cours de votre route, mais maintenant, elles peuvent vous limiter, ils peuvent vous limiter dans votre réalisation. Puis, j'aimerais te donner l'exemple de ma belle-mère. Ma belle-mère a 80 ans, Chantal, et elle souhaite voyager. Elle a réussi à accumuler un petit montant d'argent, mais tu sais, assez pour faire un beau voyage, mm-hmm. mais elle n'arrête pas de le reporter. Et là, ce qu'elle soulève tout le temps, je ne veux pas voyager seule, je ne peux pas laisser mon chat, est-ce que je vais avoir de l'argent? et tout ça, c'est des peurs.
T'sais? C'est ça. Donc, finalement, elle remet toujours à plus tard pour toutes ces considérations qui, en fait, sont des peurs, mais enfin, c'est, bon, elle, ça passe pour des croyances, là. Bon, il y a ça aussi, hein, les fausses croyances. Bon, on se conforte dans toutes sortes d'idées, dans toutes sortes de craintes, et puis finalement, ben c'est ça. C'est peut-être aussi des fois par méconnaissance, manque d'informations. Il y a plein de choses là-dedans.
En fait, je dirais même, je pousserais plus loin, il n'y a pas vraiment, et c'est mon fils qui me reflétait ça quand il était jeune aussi, il n'y a pas nécessairement de racine à nos peurs. Donc, on peut leur sentir la peur, là, puis ça, c'est évident, mais il faut aller creuser. Comme tu l'as dit, c'est peut-être des croyances, c'est peut-être des fausses insécurités aussi, mais ce qu'il faut voir, c'est quoi justement ces insécurités-là que ça soulève. Et tu sais, si je reprends l'exemple de ma belle-mère, mais tu sais, si c'est la peur de l'inconnu, par exemple, de voyager, bien, parfait, va chercher plus d'informations sur la destination du voyage, par exemple. Si tu as peur de voyager seul, bien, prends de l'information sur la sécurité du pays que tu veux visiter ou pourquoi ne pas faire l'expérience avec un voyage de groupe.
C'est ça, donc, ça peut être une solution. Enfin, il faut se mettre en mode solution, c'est vrai.
Tout à fait. Dans le fond, c'est ça. C'est l'idée, si tu t'ancres dans tes peurs, mais tu n'avanceras pas, tu vas même t'enraciner là-dedans et ils n'auront pas nécessairement de fondement. Donc, prends, écoute-les, ces peurs-là, elles sont un signal, elles sont un signal d'une insécurité. Parfait, on va aller chercher l'information, puis ça va vous amener à faire des choix éclairés, puis à poser des actions alignées avec ce que vous souhaitez, mais ça va vous mettre dans un mouvement aussi, vous ne resterez pas lié seulement à vos peurs.
Exactement. On parlait tout à l'heure qu'au Québec, l'espérance de vie est autour de 83 ans. Bon, ben, est-ce que c'est pas par une fausse peur, finalement, d'avoir peur justement de manquer d'argent quand on a un certain âge?
Bien, si on a la peur de manquer d'argent, parfait. Entendez cette peur-là, puis dites, OK, je vais, c'est de l'insécurité financière. Donc, je peux me faire rassurer, je peux aller voir un planificateur financier qui va me faire une vraie planification financière avec des projections aligné avec mes objectifs financiers et mes rêves. Et là, dans le fond, il va pouvoir répondre à mes insécurités. Et là, je vais pouvoir, après ça, poser des actions, faire des choix éclairés. Donc, ça sera peut-être pas, par exemple, le voyage, mettons, la méga croisière, mais je vais pouvoir prendre un autre type de voyage qui va pouvoir répondre en lien avec ma planification financière.
Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, là, de vaincre ses peurs, ses croyances, et puis de remettre à plus tard. Et puis, ben, c'est ça. C'est de bien identifier aussi la raison. Ben, bon, tu parlais de ta belle-mère. Ben, je peux parler aussi, bon, de ma mère aussi, qui peut-être, elle aussi peut avoir ses peurs, là. Bon, on lui parlait justement, je pars pour quelque temps, et puis, bon, on lui parlait d'aller chez ma sœur, par exemple. Et puis, effectivement, bon, c'est quoi qu'il y a dérange plus dans le fait d'aller chez ma sœur. Bon, tu sais, il faut qu'elle identifie un petit peu c'est quoi les peurs, là, ses craintes fondamentalement. Et puis, bon, pourquoi elle n'est pas certaine, est un peu ambivalente. Alors, tu sais, c'est tout ça finalement. Donc, c'est profiter de l'instant présent, puis d'essayer au mieux de notre connaissance finalement de trouver des solutions. C'est ça.
Et de rester connecté avec, oui, ce qu'on ressent, c'est comme par exemple là, ta mère, bien, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui m'insécurise et quelle action ou qu'est-ce que je pourrais décider pour me sentir bien dans ce choix-là, par exemple. T'sais? Parce que, tu sais, Chantal, rendu à l'automne de notre vie, comme tu as bien dit tantôt, remettre à plus tard pourrait signifier remettre à jamais et là, d'avoir des regrets.
C'est ça, puis ça arrive très souvent, hein, c'est vrai.
Et on n'a pas le goût d'avoir ça, ces regrets-là. sais, j'ai le goût de te partager. Mon fils, quand il était tout petit, écoute, je pense qu'il avait 10 ans à ce moment-là, il me dit un jour une phrase, puis cette phrase-là m'a restée tout le long. Il dit, maman, il dit, ce sont nos pas qui limitent nos pas.
Ah,
donc,
ouais.
Je peux pas faire ça. Je peux pas aller là. Je suis trop vieux, trop vieille. Donc, vos pas, ben, ça va limiter votre avancée. Puis là, ben, si vous avancez pas, c'est là qu'on décline, c'est là qu'on vieillit, c'est, on perd notre jeunesse, on perd ce que la vie a à nous apporter finalement.
Mmh, c'est ça, tout à fait. Ah, ben, c'est bien dit, mon Dieu. Alors, ton fils avait déjà, même très jeune, cette maturité, hein, c'est beau?
Oui, oui. Et puis, il y en a beaucoup de temps, quand je te disais aussi, à un moment donné, on peut apprendre de tout le monde. Ben oui, ça apporte des éléments de réflexion. Puis là, tu sais, comme, hey, c'est-tu quoi? C'est pas fou, puis je peux peut-être voir ça sur un autre angle maintenant, là, tu sais.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, prendre conscience hein, de notre attitude face à notre propre vieillissement, nos propres limites, là, qu'est-ce qui nous limite vraiment, et puis surtout d'essayer de vivre le plus possible, profiter de la vie, évidemment. Alors, c'est ça. Donc, apprendre de ces nouvelles expériences, tout ça, très important. En conclusion, José?
Bien, en conclusion, j'ai le goût de vous inviter à vivre votre prochaine saison jusqu'au bout de vos passions. Apprenez de ces nouvelles expériences, c'est ça qui va vous garder jeune. Et en conclusion, je vous laisse sur une citation de Richard Gere, l'acteur qu'on
oui,
connaît.
Oui, que l'on connaît bien.
Qu'on connaît bien. C'est la vie et aucun d'entre nous ne s'en sortira vivant. Donc, mangez des choses délicieuses, sortez au soleil, plongez dans les océans, dites la vérité que vous portez dans votre cœur. Soyez fou, soyez bon, soyez bizarre. Il n'y a pas de temps pour autre chose.
Ah ben voilà, c'est bien dit. Alors c'est une belle conclusion. Et puis ben ça termine aussi bien notre saison, cette conclusion, José.
Ben oui, tout à fait. Et j'ai adoré, Chantal, mes chroniques avec toi. Donc
c'était fort intéressant. Puis c'était un beau moment de partage aussi, puis de réflexion. En tout cas, puis ça nous touche tout le monde, quel que soit notre âge. Je pense que ça nous permet d'apprendre, c'est ça, à mieux vivre. Et de toute façon, ben tout le monde vieillit forcément. Et puis vieillir, hein, c'est ça se fait graduellement à tous âges. Et puis il faut apprendre à vivre ces transitions. Et c'est ça. Puis comme tu le disais, il y a plusieurs saisons dans une vie. Alors, il faut en profiter pleinement.
Exactement.
Alors, ben écoute, on en a profité pleinement, nous, dans notre chronique. Alors, merci encore une fois. Ça a été un plaisir de jaser avec toi tous les vendredis. Alors,
merci
tous les vendredis de l'été. Et puis, je te souhaite un bel automne.
Merci à toi aussi.
Et au plaisir.
Bye-bye. Bye-bye.
Ne tu mens pas la beauté du monde. Ne tu mens pas la beauté du monde. Na 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 du du, va 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 vi vi, va va vi vi, va va vi. Ne tu mens pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue, revient nous tuer. Son doux, ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour, ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas la beauté du monde. Se joue, ne tuant pas.
l'inimitable Diane Dufresne qui chantait un grand classique, « Ne tuons pas la beauté du monde ».
Oui, merci à Mathieu, merci Mathieu à la mise en onde. Et puis je pense que c'était le choix de Catherine, et oui, Catherine Bourderon qui entre en studio avec moi parce que bon, je vais m'entretenir. Évidemment, en fait, c'est une chanson un peu plus grave, mais porteuse d'espoir, hein, c'est important. Alors... On termine un peu la saison différemment, quoi. Bien sûr, alors on était dans un esprit différent au début de l'été, n'est-ce pas, Catherine?
Oui.
C'était peut-être, c'était autre chose, mais là, évidemment, on se recadre pour l'automne. Maintenant, on reçoit Jacinthe Descoteaux, tétraplégique, qui va nous parler d'accessibilité, notamment dans des commerces, sur les trottoirs, mais partout. Bonjour, Jacinthe.
Bonjour, ça va bien?
Mais oui, alors vous êtes, en fait, je peux vous définir comme une citoyenne engagée. Et c'est Catherine qui vous a rencontrée, vous n'avez pas la langue dans votre poche quand vous parlez d'accessibilité.
Non, absolument pas. J'ai pas ma langue dans ma poche en général, donc encore plus sur l'accessibilité maintenant, je suis en fauteuil roulant.
C'est ça. Bon, d'abord, vous êtes devenue tétraplégique suite à un accident. Racontez-nous peut-être un tout petit peu.
Oui, c'est arrivé il y a 8 ans, un 6 juillet, belle journée ensoleillée, plein milieu d'après-midi, j'étais au volant de ma voiture, mon pneu conducteur a éclaté, j'étais malheureusement dans la voie de gauche, donc ça m'amenait dans les murets, donc j'ai fait comme une manœuvre pour tourner à droite, ce qui m'a ramené à gauche, j'ai fait des tours, 3 tours, ça m'a cassé le cou, donc je suis devenue... quadraplégique incomplète, en fait, c'est ça.
OK. Donc, et puis là, suite à ça, évidemment, bon, il y a tout eu la réadaptation, apprendre à vivre autrement, tout ça. Maintenant, c'est ça. À quel moment, là, vous réalisez là, que finalement, c'est pas facile d'être en fauteuil roulant quand on a ces limitations importantes? Vous aviez quel âge d'abord?
J'avais 30 ans quand j'ai eu mon accident. Par contre, au moment où je suis plus engagée au niveau d'accessibilité, c'est depuis que je suis déménagée à Longueuil. Maintenant, j'habite dans un condo qui a été adapté pour moi. Et donc, je sors régulièrement de chez moi parce que j'ai besoin de voir du monde. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis outrée, en fait, de voir à quel point en 2023, on n'est pas avancé au niveau de l'adaptation universelle.
C'est ça. On en a parlé tout au long de l'été, nous, effectivement, cette fameuse accessibilité universelle. Donc, bien sûr que là, on a revu le code du bâtiment, il y a des améliorations qui ont été apportées, tout ça, mais évidemment, tout ça prend beaucoup de temps. Maintenant, les nouveaux constructeurs doivent aussi faire des choses de ce côté-là. Par contre, y a-t-il assez d'inspecteurs? Est-ce qu'on surveille ça de façon encore assez attentive? Parlez-nous en général il y a eu ce projet pilote aussi de la Ville de Québec, en passant, qui a été fait au début de l'été, hein?
Oui, mais en fait, ce projet pilote-là concernait seulement que 10 commerçants. Donc, si on calcule la grandeur de la Ville de Québec, 10 commerçants, c'est vraiment pas beaucoup pour une société qui est vieillissante présentement.
Oui, évidemment, ça, c'est l'enjeu aussi, parce qu'on a les gens qui sont à mobilité réduite pour toutes sortes de raisons, mais il y a le phénomène du vieillissement qui entraîne aussi un problème d'accessibilité. Et quand on parle, d'accessibilité universelle, Jacinthe, là, ça veut dire qu'au niveau du code du bâtiment, par exemple, on pourrait avoir, au lieu d'avoir des escaliers, de construire d'emblée des escaliers, on peut mettre beaucoup plus de rampes, on pourrait en mettre beaucoup plus finalement. Et déjà là, en partant, on n'a pas besoin de refaire une autre rampe additionnelle, tu sais, pour adapter ces immeubles-là.
Bien, souvent, en fait, ce que le guide la loi sur le bâtiment dit, en fait, c'est que c'est un guide, en fait. C'est pas une loi. Obligés à la base de le faire. En fait, c'est un guide tout simplement qui fournit des renseignements sur des motifs de certaines exigences à l'aide de commentaires. Des fois, c'est fait pour les architectes et les concepteurs, mais en réalité, c'est pas une loi. Ils sont pas obligés de le faire. Puis souvent, ça va être au propriétaire, celui souvent, il va vouloir aller au moins de coûts possible. Puis souvent, ça va être dans l'accessibilité, malheureusement, pour les personnes à mobilité réduite qui vont couper.
C'est ça. Vous avez toujours, vous vous êtes plainte à multiples reprises quand même.
Oui, j'en ai parlé parce qu'il y a eu l'élection. J'en ai parlé quand il y a eu l'élection partielle. J'en ai parlé à tous les candidats. Ils se sont tous montrés intéressés, bien sûr. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas vu d'amélioration pour l'instant. Mais c'est ça.
C'est un processus qui est encore très lent. Et puis bon, là, évidemment, il y a le phénomène des saisons. Bon, l'accessibilité, par exemple, des trottoirs, ça, vous le vivez régulièrement, particulièrement en hiver, forcément.
Bien, en fait, autant en hiver qu'en été, je vous dirais. Parce que, bon, les trottoirs d'été, ce qui arrive, c'est que ils sont pas égaux. C'est-à-dire que je peux pas rouler sans regarder en avant. Faut vraiment que je roule doucement. Il y a des crevasses, les bords de rue, les descentes de rue. Des fois, c'est trop roule à cause que, ben, évidemment, c'est des vieux trottoirs. Des fois, ils vont corriger un trottoir, mais ils vont juste corriger la partie à laquelle ils ont touché au lieu de changer le trottoir au complet pour qu'il soit égal. En hiver, c'est une autre chose, c'est au niveau du déménagement. Les déneigeurs, eux, ils sont avec leur machine, ils passent tout droit, comme si un trottoir était fait en ligne droite. Mais dans le fond, on sait tous qu'un trottoir, des fois, il faut entrer un peu sur la rue, tourner pour pouvoir monter. Mais moi, si, mettons, la ligne est faite droite, ben moi, j'y vais, mais... Au bout, s'il n'y aurait pas une chaîne de trottoir, ça m'est arrivé d'ailleurs cet hiver.
Oui, il peut y avoir des surprises de taille, oui. Mais exemple, vous êtes à Longueuil, vous, ben, comment ça se passe pour rouler sur les passerelles de Longueuil là, pour accéder, par exemple, si vous voulez traverser, vous allez, je sais qu'avec Catherine, vous vous êtes rencontrés au bord du fleuve, hein, n'est-ce pas, Catherine?
Oui, d'ailleurs, je la prends souvent, cette passerelle, et je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est que les portes ne s'ouvrent pas. Alors, on est avec nos vélos, chaise roulante ou peu importe, on ne peut pas prendre notre vélo. Et en fait, c'est l'autre bord de la 132. On peut pas. Il y a toujours un problème avec les portes. Je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses, Jacinthe. Tu me disais qu'il y avait 8 boutons pour ouvrir les portes.
Ben oui, c'est ça. C'est parce que il y a 4 portes. Mais il faut dire que quand on part, on revient. Fait que c'est un bouton d'un bord, un bouton de l'autre bord. Donc, c'est 8. 8 boutons. Moi, quand je suis déménagée à Longueuil, j'avais fait la mention à la ville de Longueuil. Ils avaient réparé toutes les portes pour l'aller. Mais quand je suis venue pour revenir, ils n'avaient pas checké les portes pour revenir. Fait qu'il y avait encore une lacune à ce moment-là.
Oui. Ah, ben c'est sûr, quand ça demande une attention continuelle, finalement, puis que les équipements soient en fonction, c'est sûr. Et puis, bon, évidemment, ça veut dire que par moment, tu as besoin d'aide. Hein, et puis, bon, juste un petit détail comme ça, comment les gens se comportent quand tu dois demander de l'aide parfois? Ouais.
Oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. La majorité des gens sont gentils. Mais ce que j'ai subi, et puis ça m'a fâché, et n'ayant pas ma langue dans ma poche, le monsieur ou la madame l'a su, c'est exemple quand je demande de l'aide, puis qu'on a on se voit dans les yeux, on le sait qu'on s'est vu, là, puis que la personne regarde à terre, fait semblant que j'existe pas, c'est très insultant.
Ouais, c'est ça.
Très insultant. Je préférerais que la personne me dise, écoutez, madame, je me suis blessée au dos, ou ça me tente juste pas de vous aider. C'est beaucoup plus clair que d'arriver puis de se faire ignorer comme si j'étais rien, finalement.
Mm-hmm. Est-ce que tu as parfois peur de tomber de ta chaise roulante, Jacinthe?
Ben oui. Honnêtement, l'hiver, c'est dangereux parce que, justement, les trottoirs, des fois, ça peut être très dangereux. Avec la pluie verglaçante, des fois, je glisse. Ça m'est arrivé sur un bord de trottoir de tomber parce que je suis rentrée trop vite dans l'entrée. Dans ma tête, la chaise était pour passer, mais en réalité, la chaise a le breaké. La chaise a levé et j'ai tombé en bas de ma chaise. Moi, étant quadriplégique, je peux pas me retenir. Donc, je suis tombée la tête la première.
C'est quelque chose. Effectivement, donc, ça veut dire que, ouais, ça, là, tu dépendais entièrement des autres pour t'aider, c'est sûr. Mais,
oui, constamment.
Et puis, bon, on parle sur la rue, sur les trottoirs, mais là, tout à l'heure, on a parlé d'un projet pilote, bon, dans les commerces. En fait, l'air de rien, l'accès, par exemple, quand tu arrives pour payer, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est à la bonne hauteur? Est-ce qu'il y a des problèmes quand tu vas dans des commerces?
Toujours. Fait que d'ailleurs, j'ai comme pas le choix à ce moment-là de me mettre en danger en divulguant mon IP parce que j'ai besoin d'aide dans les guichets, mettons. Dernièrement, je me suis fait à la banque, un guichet de la banque. J'ai pas pris ma carte assez rapidement parce que j'avais de la misère. Il a gobé ma carte.
Ah oui, c'est ça. La carte est disparue. Bon, d'accord.
La carte, plus de carte. Ou sinon, quand je viens pour payer, que ce soit dans les épiceries ou dans les dépanneurs, avant, la machine pouvait bouger. Ils pouvaient nous la donner dans les mains. Maintenant, ils sont fixes. Ils sont fixes à la hauteur des gens qui sont debout.
Mm-hmm. Ben oui,
même
c'est
les
ça.
Machines à poker dans les bars, les machines à poker sont au haut. Même ça, c'est ça.
Non, c'est sûr. Puis bon, évidemment, là, tout à l'heure, on parlait des trottoirs, tout ça, mais c'est sûr que, bon, on déneige les déneigeuses l'hiver, mais c'est sûr qu'il y a aussi, bon, il y a un délai, là, évidemment, entre le moment quand il y a... Bon, c'est sûr que c'est complexe, hein, le déneigement, c'est gros, mais bien sûr qu'il y a un délai ce délai-là, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas emprunter les trottoirs ou enfin, à toute fin pratique, il y a un minimum aussi, c'est-à-dire qu'il faut peut-être penser aux citoyens qui doivent aussi se responsabiliser et peut-être déblayer devant leur commerce, devant la rue, quoi, devant leur maison?
Ben, moi, devant leur maison, non, parce qu'à quelque part, moi, je considère qu'ils payent des taxes. Donc, c'est à la ville de libérer le trottoir en avant des maisons. Par contre, les commerces, c'est à eux de le faire s'ils veulent une clientèle, s'ils veulent ajouter de la clientèle en déblayant juste le trottoir devant eux, ben probablement qu'il y a une personne à mobilité réduite qui pourrait rentrer puis faire un achat. Mais c'est pas accessible. On
n'y
va pas à ce moment-là.
Jacinthe, lorsqu'on se parlait antérieurement, tu faisais un gros parallèle avec la population vieillissante et les personnes en mobilité réduite. C'est quoi le parallèle que tu faisais?
Ben, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que la société, justement, est vieillissante et il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin de déambulateurs, de marchettes, de cannes, peu importe. Si, exemple, le trottoir est pas déblayé correctement selon la manière que le trottoir est fait, la personne âgée peut arriver, tomber, se blesser. Puis la plupart des gens, des personnes âgées qui se blessent, qui se cassent une hanche, la majorité décèdent dans l'année qui suit.
Oui, c'est ça. Il y a 12% de risque de mourir dans les 12 prochains mois quand on se casse une hanche. Oui, c'est vrai que, bon, dépendamment, évidemment, de l'âge de la personne aussi. Mais parfois, ben, quand je parlais de... Tout à l'heure, je parlais de déneigement, mais c'est parce qu'en fait, évidemment, selon la gravité d'une tempête, puis on le comprend très bien, là, il peut quand même s'écouler jusqu'à 72 heures avant qu'il y ait quand même un déneigement qui se fait, ben, peut-être qu'il y en a un partiel, mais c'est vrai que pour des gens qui sont à mobilité réduite ou des gens âgés, ben, ça peut être une question parfois aussi importante, là, qui, tu sais, ben, je n'irais pas dire jusqu'à une question de vie ou de mort, mais presque, là, des besoins de médicaments, de nourriture, d'assistance et tout, là, ça peut être assez grave. Alors, c'est sûr qu'on en prend conscience au niveau de la société, mais comme toi, tu es à même de dire qu'il y a énormément encore d'améliorations à apporter.
Oui, mais j'aurais, tu sais, comme au minimum une idée, comme exemple, pour les secteurs. C'est facile à avoir des secteurs où est-ce qu'il y a des résidences de personnes âgées, des secteurs où est-ce qu'il y a des gros blocs, tu sais, comme sur le bord de l'eau, il y a beaucoup de condos. Donc, c'est susceptible d'avoir des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Peut-être déblayer ces secteurs-là avant. Peut-être faire une formation un peu plus complète au niveau des employés de la ville pour leur démontrer, les faire asseoir eux-mêmes dans une chaise roulante, puis les faire voir, hey, toi, tu trouves-tu que ce travail-là est bien fait ou de leur montrer que garde, c'est moi, je réalisais pas ça avant parce que j'étais debout, mais maintenant, étant assis, je le réalise.
C'est
puis je me rends compte que dans le fond, moi avec, avant, là, je pensais pas à ça, là. C'est plus que ça, parce que c'était pas ma réalité, mais quand ça devient ta réalité, c'est là qu'on en prend conscience.
C'est ça. Puis bon, ben c'est parce qu'évidemment, ça termine bien un peu l'été dans la mesure où, bon, l'automne s'en vient. C'est sûr que là, bon, la neige, là, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, ça viendra. Et puis bon, je pense que... mais il y a toutes sortes de considérations, là. Évidemment, les bâtiments, l'accessibilité universelle, là, qu'il faut absolument intégrer de plus en plus. Il y a ce nouveau guide, bien sûr, pour l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis avec les partenaires. On pense à Kéroul aussi, qui donne toujours de bons points, l'Office des personnes handicapées du Québec. En tout cas, merci, Jacinthe Descoteaux, d'être venue nous en parler.
Bien, ça m'a fait plaisir.
Alors, c'est...
Je vous souhaite une belle fin d'émission, une belle
merci,
fin d'été.
Merci, et puis c'est ça, bonne chance pour la suite, et puis on va se croiser les doigts pour que les choses s'accélèrent finalement de ce côté-là. Et puis, ben, j'en profite pour, évidemment, remercier toute l'équipe encore une fois pour tous ces beaux sujets qui parfois m'ont fait sortir de ma zone de confort, mais enfin, qui ont tous été intéressants, passionnants, enfin, des belles rencontres finalement, oui. Je veux aller trop vite. Merci Catherine, pendant que tu es là. Merci.
Merci pour tout.
Et merci Mathieu, oui, qui est de l'autre côté de la vitre. Alors, je vous souhaite ben, une bonne fin d'été. Hein, c'est pas terminé encore pour vous et puis pour tout le monde. Et puis, on se retrouve peut-être, on sait pas, l'année prochaine. Voilà.